Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Allez, de l'actu média tous ensemble jusqu'à 10h. Vous êtes sur France Inter et c'est l'instant M qui démarre.
Vous coupez ?
Non. Vous êtes en direct, allez-y.
Comment passer à côté de ce documentaire diffusé ce soir sur Arte ? Comment passer à côté de cette enquête géopolitique sur le prix du pétrole en pleine COP24, en pleine crise des gilets jaunes déclenchée par une taxe carburant et pile au moment où s'éteint George W. Bush, instigateur de la première guerre du Golfe et lui-même né au Texas, patrie de l'or noir américain. En 52 minutes de film, ces quatre fils se croisent pour ne former qu'un seul et même nœud. Et cette leçon fracassante pour ma génération, née avec le choc pétrolier, non, nous n'avons pas assez de pétrole, nous en avons trop. Ce n'est pas la pénurie qu'il nous faut gérer, c'est une arme politique.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Voilà donc quelques affirmations qui secouent. Bonjour Jean Crépu.
Bonjour.
Voilà, vous êtes donc le documentariste qui a signé Coup de poker sur l'essence. C'est sur Arte à 20h50. On va en parler dans quelques instants. Salut à toi Xavier Delaporte.
Bonjour Sonia, bonjour à tous.
Voilà,
à tous.
La fenêtre de la porte, chronique numérique du mardi. Et la fenêtre aujourd'hui, elle s'ouvre sur quoi Xavier ?
Elle s'ouvre sur Nicolas Dupont-Aignan qui a refusé hier de discuter avec Édouard Philippe parce que ce dernier ne voulait pas que l'entretien soit filmé et diffusé sur Internet. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Vendredi, un autre porte-parole ou un porte-parole des Gilets jaunes était déjà sorti d'une réunion avec le même Édouard Philippe et François de Rugy parce qu'il avait essuyé le même refus. Et plus intéressant encore, Vincent Glade de Libération a exhumé une vidéo diffusée en direct sur Facebook mardi dernier, il y a une semaine, vidéo dans laquelle Éric Drouet, Gilets jaunes et co-administrateur de la page Facebook La France en colère, filmait en caméra cachée sa rencontre avec le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Il faut tendre l'oreille.
Il y avait le pouvoir d'achat avec le... Je sais plus c'était quoi les sujets traités ce matin.
C'est ce que je disais en fait, on m'avait interrogé avant pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ce qui va être dit. Comment s'exprimer quand on ne sait pas encore.
On n'entend pas grand-chose de cette heure et demie qu'a duré la discussion, mais peu importe parce que c'est le geste qui fait sens. Alors comment le comprendre ? Deux interprétations sont possibles. L'interprétation la plus manifeste est une défiance vis-à-vis des interlocuteurs. Les filmer, c'est supposer qu'ils peuvent vous enfumer, se renier ou tordre vos propos. Cette défiance est revendiquée par les Gilets jaunes, mais elle n'est pas leur apanage. Nolwenn Leblévenec de Rue 89 me rappelait que Dieudonné et Alain Soral lui avaient imposé le même chantage. On veut bien être interviewé, mais on filme. Que ce soit vis-à-vis des médias ou du gouvernement, le message est le même, on ne vous fait pas confiance. On peut trouver des relents populistes ou nauséabonds à cette défiance, on peut trouver qu'elle est injustifiée, mais le fait est, cette rupture de confiance est là, elle s'est répandue et c'est grave. La seconde interprétation est d'un autre ordre, mais sans être contradictoire avec la première. On dit souvent que ce mouvement peine à trouver des représentants, c'est surtout qu'il n'en veut pas. Et quand certains sont désignés ou s'autodésignent, ils refusent de se constituer en intermédiaire, puisque précisément ils ne veulent plus de ces corps intermédiaires. Exiger que la discussion soit diffusée sur Facebook Live, c'est se faire transparent. Alors, on peut trouver ça ridicule. Alors, c'est vrai qu'on sait de Nicolas Dupont-Aignan habitué aux négos secrètes, ça l'est carrément. Mais on peut considérer que c'est rompre les codes habituels qui veulent que se disent dans ces discussions des choses qui doivent rester confidentielles. On peut trouver ce désir de transparence inquiétant. On peut aussi le trouver courageux. Qui ne s'est jamais fait aplatir dans une discussion en tête-à-tête avec quelqu'un qui maîtrise mieux que lui l'art de la parole et de la négociation.
Sans blague.
Les Gilets jaunes qui veulent filmer prennent aussi le risque de montrer leurs propres limites. Mais surtout, il y a là-dedans quelque chose d'intéressant politiquement. Tout à fait par hasard, je lisais ce week-end des morceaux du livre que Daniel Defoe, le grand auteur de Robinson Crusoe, a consacré aux pirates. Dans ce livre qui date de 1728, il raconte la création d'une république pirate dont une des originalités était le mode de désignation du capitaine. Defoe dit des pirates, je cite, « ils lui permettaient d'être capitaine à condition d'être eux-mêmes considérés comme ses propres chefs ». Il y a de ça dans cette exigence de filmer. Le fait d'accepter d'être un chef conditionnel, de rester sous le contrôle des autres. Alors, la République des pirates était une utopie problématique, c'était quand même des pirates, et Defoe raconte que bien des capitaines furent zigouillés par leurs équipages. De la même manière, le mouvement des Gilets jaunes est problématique, notamment parce que la base exerce une pression parfois très dure sur les représentants, mais on n'y comprend rien si on ne veut pas voir qu'il s'agit là aussi d'une forme d'utopie politique.
Merci beaucoup, Xavier Delaporte. La fenêtre de la porte est donc à réécouter sur franceinter.fr. Et si on veut relire William Defoe, vous vous souvenez de l'édition dans laquelle vous avez lu ça ce week-end, le Robinson Crusoe?
Oui, alors c'est pas Robinson Crusoe, c'est le texte sur les pirates et c'est l'édition Libertalia qui prennent le nom justement du nom qui était donné à cette utopie politique des pirates, Libertalia.
Eh ben formidable, on vous met tout ça sur franceinter.fr. Alors, avec vous Jean Crépu, nous plongeons tout au fond du baril de pétrole, histoire d'un séisme qui changea à jamais l'ordre mondial pétrolier. C'était il y a tout pile 4 ans. Quand le prix du baril était au-dessus de 100 dollars, c'était fou. C'était trop excitant. Il montait, puis il descendait pour remonter plus haut encore. Bon, c'était génial, parce que l'on avait des acheteurs.
Voilà, acte 1 de votre film. Le prix du baril de pétrole monte. En 2012, il est à 100 dollars et on l'imagine à 200 dollars. Et on vient d'entendre une ancienne tradeuse de Morgan Stanley. Avant de parler de spéculation, il faut d'abord dire, Jean Crépu, que manifestement, on n'a tiré aucune leçon du passé. C'est-à-dire que depuis le choc pétrolier de 1973, on sait que le pétrole est une arme politique. On sait que l'Occident est dépendant des pays arabes. On sait que le prix du baril peut être brutalement modifié à la hausse ou à la baisse du jour au lendemain.
Absolument. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui s'est joué quand même dans la première décennie des années 2000,
oui.
Quand les marchés financiers se sont emparés un peu des matières premières. Et ça a pris une telle ampleur que ça a bouleversé les fondamentaux, c'est-à-dire... jusqu'à maintenant, on fonctionnait quand même sur l'offre et la demande, et puis il y avait cette arme politique. Mais avec l'émergence des marchés financiers dans la première décennie des années 2000, on avait des fondamentaux qui c'était plus ça l'objet.
Alors c'était... les marchés financiers, si vous voulez, on va écouter l'un des analystes que vous interviewez, vous diffusez cela dans ce film, Coup de poker sur l'essence, qui est diffusé ce soir sur Arte, et il explique très bien ce mécanisme de spéculation sur le pétrole.
Je crois que les financiers, les banques, les spéculateurs se sont aperçus que le pétrole, notamment le pétrole brut, était fongible. En fait, c'était un succès d'année de l'argent, si vous voulez. La matière première la plus fongible, la plus liquide, c'est l'argent, puisque ça s'échange dans le monde entier, partout, voilà. Mais juste en dessous de l'argent, il y a le pétrole brut, le gaz, l'essence, etc.
Voilà, extrait du documentaire dont on parle ce matin qui sera diffusé ce soir sur Arte. Là, on explique bien comment le pétrole est devenu une matière à spéculation. Ce qu'on ne dit pas là, c'est que ce sont les banques américaines, Merrill Lynch, Morgan Stanley, enfin toujours les mêmes, qu'on retrouve à la manœuvre. Mais quand je dis on n'a pas tiré de leçons du passé, c'est-à-dire quand on se met à spéculer, quand il y a une espèce de bulle pétrolifère sur le cours du pétrole, on oublie donc que le pétrole est une arme politique. Et pour ça, il faut que vous réexpliquiez, Jean Crépu, ce que c'est que l'OPEP, par exemple. Parce
absolument.
Que le cours de l'offre et de la demande, hein, il
non,
se manipule
non,
lui aussi.
Absolument. Dans le début des années 70, effectivement, on s'est rendu compte que les pays producteurs de pétrole, les pays exportateurs de pétrole, avaient dans les mains une véritable arme politique. Parce que nous, pays européens, pays occidentaux, on est dépendants du pétrole. Donc là, ils se sont dit, ces pays exportateurs, on va se mettre ensemble, on va créer une sorte de cartel, et comme ça, on va vraiment peser sur les prix. Et ça permettait à ces pays-là de couper ou d'ouvrir le robinet fonction de ce qui se passait. Donc, ça, on n'a tiré aucune leçon, mais en même temps...
Et les Américains se sont toujours vécus dans cette dépendance vis-à-vis de l'OPEP, et notamment vis-à-vis de son leader, l'Arabie Saoudite.
Alors, faut bien regarder que les États-Unis ont été, avant la création de l'OPEP, des gros producteurs de pétrole et des exportateurs de pétrole. Mais la croissance américaine était telle, faire fonctionner tout le...
Ça suffisait pas?
Il fallait trouver d'autres sources d'approvisionnement. C'est là qu'il a commencé à avoir des accords avec les pays du Golfe. Et après, quand les choses se sont gâtées, là on le dit dans le film par exemple avec les attentats du 11 septembre, les États-Unis se sont dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire quand même pour s'extirper un petit peu de ce carcan des pays exportateurs de l'OPEP.
C'est extrêmement intéressant. Et petit à petit, ils vont commencer à aller forer au Nigeria, en Angola, c'est-à-dire à se dire on va sortir de la dépendance du Moyen-Orient, on va glisser doucement vers l'Afrique. Mais un mot quand même, puisque c'est la semaine où on enterre George W. Bush. Donc sur cette première guerre du Golfe en 1990, parce que le pétrole est vraiment au cœur.
Alors, le pétrole est effectivement une des raisons de l'intervention américaine. Je veux pas dire non plus que c'est la seule, mais c'est vrai que pour les Américains, ça faisait référence à un changement de stratégie pour eux, et les réserves de pétrole en Irak étaient très importantes, et ça a été effectivement une des raisons de l'intervention. Alors, je veux pas que parce qu'il y a un côté un peu on résume tout à ça. C'est vrai que dans le film, je le dis, et c'est vrai, mais c'était effectif pour les Américains de sortir de cette dépendance à l'égard notamment de l'Arabie Saoudite.
Alors, justement, revenons donc à cette euphorie, cette euphorie financière. Il faut se dire qu'il n'y a pas que de la spéculation des grandes banques américaines. Pendant ce temps-là, la demande explose, la Chine est en train de se réveiller industriellement et ses besoins sont énormes. Mais quand même, la spéculation rapporte énormément d'argent à qui ? Elle rapporte énormément d'argent notamment à l'Amérique et aux grandes banques américaines. Et ça va leur permettre, c'est tout le nœud de votre film Jean Crépus, d'investir dans des nouvelles techniques de forage, dans des nouveaux lieux de forage qui vont tout changer à l'ordre mondial pétrolifère.
Oui, alors je vais dire quelque chose qui est pas très politiquement correct.
Allez-y.
Les spéculateurs en soi sur les marchés des contrats à terme, c'est pas mauvais en soi. Les marchés à terme, ils ont été inventés pour que les producteurs, notamment de produits agricoles, ne soient pas trop affectés par la fluctuation des prix. Donc, on vend des contrats à terme pour que, au moment où on livre le produit exact, voilà, on peut jouer là-dessus. Donc, il y a des bons spéculateurs qui permettent d'éviter de protéger les producteurs. Sauf que quand ces spéculateurs deviennent la part la plus importante du marché, il faut savoir, personne le sait ça vraiment, que actuellement sur le marché du pétrole, 85% des transactions sont des transactions virtuelles, sont des transactions de contrats à terme et
c'est
pas
on ne
de
voit
produits
jamais,
physiques.
On ne voit jamais, c'est très bien expliqué.
Et c'est là
ces gens-là ne voient jamais un baril. Ils
jamais.
Ne le voient jamais, c'est-à-dire que c'est...
Et c'est là que ça va plus.
C'est des actes spéculatifs qui passent de bureau de trader en bureau de trader et c'est complètement déconnecté de la réalité de la production, du baril et des besoins mondiaux. Alors ce qu'on va raconter là, c'est le début des années 2010, c'est les États-Unis qui ont plein de pognon dans les poches grâce à la spéculation et qui vont investir dans une nouvelle ruelle vers l'or qui est le pétrole de schiste. Et ça, il faut vraiment que vous expliquiez en quoi c'est une révolution.
Alors ce fameux pétrole de schiste, en fait, il n'était pas nouveau. On savait qu'il était là depuis très longtemps, depuis même le début du XXe siècle. On savait qu'il y avait ces ressources pétrolières. Simplement, c'était très difficile d'aller les chercher parce que c'est une technologie extrêmement coûteuse. Il faut qu'on aille très profond
fracturer
dans
la
le
roche,
sol,
fracturer
la roche et tout ça. Donc, s'il y a un prix du baril qui est pas très élevé, c'est pas rentable pour les producteurs de schiste. Mais quand il s'est passé cette montée en flèche des cours du baril, quand chez Morgan Stanley, ils étaient tous là comme la petite tradeuse qui dit c'était super, complètement surexcité à
150 $
le baril. Là, les gens du schiste se sont dit, enfin les ingénieurs, les businessmen, ils se sont dit mais c'est peut-être le moment d'y aller, on va pouvoir financer ça.
Et pour la première fois, l'Amérique va pouvoir se dire que elle a moyen de rivaliser avec l'Arabie Saoudite et le Moyen-Orient, qu'elle a le moyen de s'en libérer. Et donc on bascule dans la fameuse partie de poker que vous racontez ce soir sur Arte. L'Arabie Saoudite va se dire il faut trouver le moyen d'assassiner ces nouveaux producteurs de pétrole, d'assassiner cette nouvelle technologie de forage. Il faut trouver le moyen de faire plier les Américains. On va faire baisser le cours du pétrole. Et les Saoudiens d'inonder le marché pour faire s'effondrer les cours, ça a marché.
L'effondrement des cours du pétrole a enfin un impact sur le prix de notre essence. Alors un impact très limité en France, on le sait, du fait des taxes. Mais dans le reste du monde et en particulier aux États-Unis, c'est la fête. L'OPEP doit prendre des décisions sur sa production car pour les pays producteurs, cette baisse est tout simplement une catastrophe.
Et oui, ça a été la fête pour les consommateurs, la fête pour les automobilistes partout dans le monde. En 2014, le baril s'est effondré. Il est passé de 150 à 26 dollars en 2 ans. Enfin, c'est absolument hallucinant. Ça a été une catastrophe pour les pays producteurs de pétrole. Au premier rang desquels, d'ailleurs, l'Arabie Saoudite, qui s'est serré la ceinture comme jamais. Mais ce qui est très, très, très intéressant, c'est que ça a provoqué une hécatombe partout dans le monde. Ça a très bien marché. Aux États-Unis, au Texas, ça a été un désastre économique, Jean Crépu.
Oui, oui, les Américains. Le rapport de force, c'était violent. Hein. En fait, les Saoudiens, ça a été à deux doigts de marché. Hein, parce que les producteurs de schiste, quand le baril est tombé à 26 dollars, les producteurs de schiste, ils étaient tous terrorisés quand même. Ils se sont dit, si jamais ça baisse encore. Mais les Américains, ils ont tous serré ils ont serré les coûts, les salaires étaient divisés par 3. Enfin, voilà. Et ils ont pris le choc. Ouais. Mais je crois que les Saoudiens ont totalement sous-estimé l'émergence du pétrole de schiste aux États-Unis. Moi, j'ai assisté à Riyad, à un symposium sur le pétrole, et il y avait encore le ministre saoudien du pétrole qui confiait à un analyste que je connais, mais ça va durer longtemps, ce truc du pétrole de schiste. On avait l'impression qu'il débarquait, quoi, sur l'ampleur du phénomène.
Non, mais en réalité, ça va durer très très longtemps, c'est ce qu'on comprend dans votre film. Du pétrole, il y en a juste ras la gorge, il y en a partout sur la planète, et c'est pas la pénurie qu'il faut gérer, au contraire, c'est ce trop-plein de pétrole. Alors, on va vous expliquer pourquoi il faut gérer ça. D'abord, en termes géopolitiques, l'Arabie a fini par craquer, l'Arabie Saoudite a fini par craquer à son propre jeu, c'est-à-dire que le baril était si peu cher que même l'Arabie a enregistré ses premiers déficits, les Russes n'en pouvaient plus, ils avaient l'impression que c'était un complot mondial pour déstabiliser Poutine. Donc l'Arabie a fini par faire remonter le cours du pétrole. Et pour faire remonter le cours du pétrole, eh bien il faut moins produire. Et pour ça, il faut convaincre les autres de moins produire, et avec eux, les Russes. Et là, on assiste à une alliance géopolitique historique, Jean Crépu, qui se fait sur le dos d'un baril de pétrole.
Oui, ça c'est un clin d'œil de l'histoire. Hein. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est dans le film, il y a une séquence d'archives où on voit Roosevelt qui rencontre le roi Ibn Saoud, et c'est les premiers accords pétroliers entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Et là, il y a un deal. Les Saoudiens disent « on vous fournit du pétrole » et les Américains disent « on fournit votre sécurité ». Enfin, on assure votre sécurité. Là, ce qu'on a vu en 2015-2016 avec cette crise pétrolière, c'est un renversement total d'alliance. On voit le roi débarquer à Moscou et recevoir
le
Poutine.
Roi saoudien,
c'est
un
clin d'œil de l'histoire incroyable.
Absolument incroyable.
Et ça correspond aussi à un moment où les Russes, et c'est dit dans le film, où les Russes s'investissent aussi dans le conflit du Moyen-Orient et tout ça, au moment même où les États-Unis s'en vont.
Donc les Russes deviennent un acteur stratégique au Moyen-Orient, un acteur stratégique sur le pétrole. On voit bien ce qui est en train de se redessiner là comme carte mondiale autour du pétrole, c'est extrêmement intéressant. Et alors, l'autre leçon du film, qui là, je vous dis, secoue un peu, même beaucoup, les gens de ma génération, c'est que finalement, donc les pays producteurs du pétrole vont tous ensemble décider de produire moins. Les Américains se disent ça laisse plus de place pour nous. Donc nous, on peut commencer à produire plus. Et d'ailleurs, ça rapporte plus d'argent parce que le prix du baril va augmenter. Et donc finalement, on se retrouve à cette situation absolument incroyable où pour la première fois, les États-Unis produisent autant que l'Arabie Saoudite.
Plus maintenant, même, plus, puisque les derniers chiffres, j'ai eu les derniers chiffres, la production américaine atteint à peu près les 12 millions de barils jour, c'est-à-dire quasi 1 million de plus que les Saoudiens, quoi. Donc ça, c'est un événement majeur. Et on a dit pendant un moment que les Américains, ils pouvaient pas produire plus parce qu'il y avait pas assez d'infrastructures. Au bout d'un moment, il y a plus les tuyaux, il y a plus les camions pour transporter parce que tellement ça coule à flot. Eh ben si. Ils ont construit à toute vitesse des infrastructures, et donc ça, c'est la nouvelle donne du marché pétrolier mondial.
Voilà, donc en fait, la leçon de ce film, c'est on n'a pas assez de pétrole, on en a trop.
Absolument. Là, il faut bien se dire que s'il n'y avait pas les sanctions américaines contre l'Iran, si la situation politique au Venezuela était un petit peu meilleure... mais le baril, il serait à 20 dollars, quoi. C'est-à-dire que là, les pays producteurs...
Tellement ça dégueule.
Ben oui, donc là, dans 2 jours, là ils sont tous réunis à Vienne, à nouveau.
Oui.
Je pense qu'ils vont se mettre d'accord à nouveau pour resserrer les vannes, pour faire remonter un peu les cours. Parce que il y a trop d'offres pétrolières aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que pour les gens de la génération qui n'ont pas
connu... C'est ça. Enfin, moi qui suis née en 75, 2 ans après le choc pétrolier, depuis que je suis toute petite, on m'a expliqué tout l'inverse. Merci beaucoup Jean Crépu.
Merci à vous.
Évidemment, hein, tout ça est expliqué de manière plus fine et plus complexe dans le film. Ce soir sur Arte à 20h50. On a essayé de vous donner quelques petits éclairages pédagogiques. Merci à vous.